Ce matin, j'ai insisté sur le fait que c'est la parole qui doit devenir centrale. Merci. C'est la parole de Dieu qui doit devenir centrale dans nos églises, qui doit nous rappeler que nous devons revenir au commencement, comme dans Jean 1, au commencement était la parole, revenir aux fondamentaux apportés par Christ. Vous comprendrez que je vais encore expliquer quelques petites choses de ma vie, mais pas pour me présenter, mais juste pour vous dire pourquoi j'en suis là aujourd'hui. J'ai eu la chance de grandir avec comme moniteur d'école du dimanche un certain Alfred Kuhn. Et vous vous dites, oh, je ne vous dis pas son surnom à l'église, hein, mais... lui et les autres anciens de l'église nous ont toujours enseigné qu'on ne peut pas désincarner la parole de Dieu. Autrement dit, vous pouvez dire des choses, mais tout ce que dit la parole de Dieu doit avoir une conséquence pratique dans votre vie. La Bible n'est pas une donneuse de leçons, c'est une histoire d'homme dans laquelle Dieu est venu rejoindre. C'est encore mes feuilles qui tombent, c'est vraiment décidément. Et ça m'a beaucoup marqué. Le deuxième élément encore qui a marqué ma vie, c'est une citation qui a eu des répercussions dans ma famille aussi, mais du côté de mon grand-père. Comme ça, vous allez voir toutes les méandres de ma famille. Du côté de ma famille, du côté de mon grand-père maternel, ils sont venus à Christ à partir du passage de Félix Neff, un évangéliste du 19e siècle. Et Félix Neff, quand il est arrivé dans le village où étaient mes ancêtres, il s'est dit, il faut apporter l'évangile, mais il faut apporter autre chose en même temps. Ils habitaient le petit village de Saint-Véran, peut-être que certains connaissent, le plus haut village d'Europe habité toute l'année. Et il leur a dit, avant de pouvoir apporter l'évangile, je dois leur apporter l'hygiène, la culture, l'écriture. Et après quelques années, non seulement dans ce village, les gens n'habitaient plus avec les animaux, il y avait des cultures qui se faisaient dans ce village, mais de nombreux pasteurs sont partis de ce petit village, les Hautes-Alpes. Et quand ils descendaient dans la vallée, ils tombaient sur des libéraux, déjà. Et quand ils revenaient, ils venaient voir Félix Neff, ils lui disaient, mais comment on peut détruire leur position ? Et la réponse de Félix Neff leur était assez simple, et pour moi elle reste toujours vraie. Chacun d'entre vous, vous construisez une maison. Montrez que la vôtre est plus solide. Encore une fois, incarnez le message de Jésus-Christ. Le vivre dans sa famille, dans sa personne, avec ses voisins, sur son lieu de travail, d'une manière ou d'une autre, transpirez l'évangile avant de vouloir l'imposer aux autres ou le donner aux autres. J'aimerais pour cela commencer encore une fois par une petite histoire qui va illustrer mon propos de ce soir. L'histoire se passe à l'époque des galères. Les gens sont parqués dans des forts, un petit peu comme Fort Boyard. Si je dis Fort Boyard, tout le monde se dit quelque chose. Voilà. Les gens sont enfermés dans des cellules, elles sont très petites. Des fois, on oublie les gens dans ces cellules. En fait, ils sont stockés dans ces endroits-là avant d'être embarqués au fur et à mesure de la demande sur les galères. Un cousin du roi habite à quelques encablures d'un de ses forts, du côté de La Rochelle. Cet homme est un peu particulier, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendants, il n'a qu'une grosse fortune qu'il dépense parcimonieusement. Et il y a quelque chose qui le travaille depuis des années. Comment vivent les prisonniers dans un de ces forts? Il demande alors à ce moment-là au directeur de ce fort, est-ce que je peux venir visiter les prisonniers? Cela ne se passe pas très très bien, parce que c'est quand même assez mal famé. Les gens n'ont pas forcément la paille renouvelée tous les jours dans leurs cellules. Toujours est-il que ce cousin du roi qui avance déjà en âge reçoit l'autorisation enfin de visiter ces cellules. Et on ouvre la première, et il voit dans quel état de délabrement sont les gens. D'habitude, les labrements, ce sont pour les choses. Mais les personnes sont chosifiées. Il passe une, deux, trois, quatre cellules et à la quatrième, il n'en peut plus, il rentre chez lui. Et il rentre en lui-même. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ces gens-là ? Alors il décide d'apporter tous les jours avec son personnel de la paille à ces personnes qui sont dans les cellules, ainsi que de la nourriture. Il redemande l'autorisation pour pouvoir visiter les cellules, et là de nouveau un veto, c'est trop dangereux, surtout pour le cousin du roi. Alors il écrit à son cousin le roi, qui lui donne l'autorisation, le roi se disant certainement, ça c'est pas dans mon histoire, mais peut-être que s'il meurt, je récupère ses terres. Toujours est-il qu'il va enfin en prison. Enfin, il va visiter de cellule en cellule. À chaque cellule, il apporte, d'abord il enlève la paille, il donne de l'eau pour que les gens se lavent, et puis il leur donne à manger et de la paille fraîche. Cela se passe pendant 3, 4, 5, 6 mois, mais ça travaille toujours le cœur. Le corps de ce cousin du roi qui dit « mais je pourrais leur apporter plus, je pourrais par exemple leur apporter la culture, apprendre à lire et à écrire, ils sont là pour des années peut-être avant de pouvoir sortir ». Alors il fait de nouveau les mêmes demandes, le même parcours, les mêmes vétos et de nouveau enfin l'autorisation. Et le voilà qui parcourt de cellule en cellule et il apporte à chaque cellule ce qu'il faut, nourriture, paille, eau, mais aussi lecture, écriture, connaissance. 2-3 années se passent ainsi et il sent bien que ses forces faiblissent, ce cousin du roi. Alors il se pose la question suivante. Qui pourrait me remplacer ? Et il ne voit qu'une solution. Un des prisonniers pourrait sortir et prendre sa place. Il demande alors à voir dans la cour de ses prisons, de ses forts, l'ensemble des forçats. Encore une fois, aller-retour, je passe sur les courriers qui s'échangent avec Paris, et les voilà tous dans la cour, et tout seul, sur un promontoire, le cousin du roi. Il y a des gardes partout parce que c'est dangereux. Et voilà que ce cousin du roi, peut-être un peu naïf, énonce la chose suivante. Pour les prochaines années, je vais prendre la place de l'un d'entre vous et je vais prendre sa peine. Et lui sortira pour continuer le travail que j'ai commencé. Les gens se bousculent. Ça fait quelques années qu'il le côtoie, le fameux cousin du roi qui dépense des sous sans retour. Le premier lève le bras et dit « Moi, je suis bon naturellement. C'est une erreur. » Le cousin des rois l'écarte, il n'y a personne de bon naturellement. Un autre lève le bras et dit « Moi, c'est une erreur judiciaire, mais juré, craché par terre. » Non, il est intact, hein, je rassure la sono. Je ne recommencerai plus. Et le cousin des rois est encore triste. Et voilà qu'il défie les uns les autres avec des excuses de toutes sortes. Ce que j'ai fait était petit, ce que j'ai fait était grand, mais je ne ferai plus rien que des choses petites. Enfin, chacun se trouve une excuse, et alors que tout le monde est rassemblé, au fond, là-bas, de la cour, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un gars tout seul en train de taper à la porte et qui désire retourner dans sa cellule. Entouré de quelques gardes, le cousin du roi s'approche de lui, traverse toute la cour, vient enfin près de lui et lui dit « Mais pourquoi veux-tu retourner dans ta cellule ?» Il dit « Parce que moi, je ne suis pas bon et je me connais. Je vais sortir avec tout l'argent que vous avez, je vais me payer des filles, je vais me payer tout ce que je veux, mais je vais oublier cet endroit-là. » Le cousin du roi lui dit « Mais tu sais qu'il y a moyen de revenir tous les jours ici. Et c'est lequel ? Commence par la cellule où je suis. Je te parlerai, je te dirai comment je suis revenu, et puis ensuite, tu pourras continuer à visiter les cellules. Veux-tu essayer ?» Et chose extraordinaire dans l'histoire, le cousin du roi prend la place de quelqu'un qui doit purger une peine et le prisonnier sort de la prison. Et pendant les 6 années qui suivent, le prisonnier va tous les jours faire l'aller-retour. Nourriture, paille fraîche, connaissance, lecture. Au bout des 6 ans, la peine est enfin purgée. Le cousin du roi peut sortir de prison, lui qui n'a rien fait. Il rejoint le prisonnier et encore pendant quelques années, ils vont faire les allers-retours. Et puis un jour, le cousin du roi se rend bien compte qu'il est près de mourir et il va léguer son nom. À l'époque, on ne portait pas de nom de famille. On avait le nom de la profession, de la région et tout au plus de son père. Mais il va prendre le nom du cousin du roi. Et le travail va continuer après le décès du cousin du roi. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que nous sommes dans cette situation-là. Dieu est venu dans la prison qu'est notre péché pour nous soulager. Nous avons différentes manières de réagir. Nous pouvons accepter le message ou le refuser. Nous pouvons en profiter, l'ambiance, l'église, le message est bon, les gens sont gentils, sans jamais vraiment saisir ce message pour soi. Mais il y a un moment où Jésus est venu prendre notre place dans la prison afin que nous sortions et que nous continuions son travail. Il est passé par la mort, effectivement, avant d'être ressuscité. Qu'est-ce qu'a fait le cousin du roi? Il a apporté la connaissance, la lecture, l'écriture, la propreté, mais aussi la nourriture, peut-être le vêtement, l'histoire ne dit pas. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas aussi à nous occuper des gens qui sont autour de nous, à nous préoccuper du monde dans lequel nous sommes? Nous sommes connectés avec Dieu, mais sommes-nous connectés avec le monde dans lequel nous sommes? C'est cette deuxième partie que nous avons maintenant. Être connecté avec les gens qui sont autour de nous, c'est regarder leurs besoins. Je ne reviendrai pas sur le texte que j'ai lu ce matin à propos de Jean 6 sur la multiplication des pains et des poissons. Mais vous avez lu ce détail qui est écrit, Jésus a compassion de cette foule et veut leur donner à manger. Après tout, pour aller voir Jésus, moi je suis capable de jeûner. Et Jésus leur propose de déjeuner. Il leur propose même de s'asseoir et il veille à ce qu'il y ait un peu d'herbe verte. Vous êtes mieux installés. Il veille au cadre dans lequel les choses se font, afin que les gens soient dans de bonnes dispositions pour écouter l'Évangile. Est-ce que notre attitude personnelle va dans le même sens? Sommes-nous prêts à bombarder les gens avec des versets? Ou à leur faire comprendre au travers de notre manière de vivre, de notre amour pour eux, de pratiquement aussi les rejoindre dans leur réalité? Je suis obligé de me ramasser ma feuille. Je suis arrivé au bout de la mienne, la première. Ça ne se voit pas, mais j'ai des notes. Et je crois que c'est important d'incarner le message de l'Évangile. D'incarner non seulement dans notre théologie, mais aussi pratiquement, et de rejoindre le monde dans lequel nous vivons, afin que l'Évangile soit encore plus accessible. Nous avons dit de Martin Luther à Martin Luther King. Le prochain, ça parlera à Martin Luther King, président. Il faut mettre quelque chose. Non, mais Martin Luther, pour pouvoir rejoindre les gens qui sont autour de lui, a pensé à traduire la Bible en allemand. Il a fallu unifier la langue allemande pour que la Bible puisse être lue par tous. Vous savez, la langue allemande qui est si difficile à apprendre, c'est de sa faute. Hein. Mais en même temps, heureusement qu'il n'y avait qu'une seule langue. Ça a non seulement unifié la langue, les gens, mais aussi en partie le pays. Parce qu'il a regardé ce qu'il y avait besoin autour de lui. Il n'a pas dit, bah, ils n'ont qu'à venir à l'église et puis on verra bien. Il est allé vers eux, comme Jésus a envoyé à la fin de Matthieu les disciples de par le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Mais en Inde ou à Rome, ça devait être bien différent, la méthode. Martin Luther King, lui, était un prédicateur. Certains ont pu lire, et j'ai lu quelques-unes de ses prédications. Il était centré vraiment sur Jésus-Christ, mais il avait un regard sur les gens autour de lui. Et il n'a pas pu rester insensible à la ségrégation. Il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre, mais il s'est senti concerné personnellement. Et ce que je trouve intéressant dans les écrits de Martin Luther King, c'est qu'il n'a pas seulement pensé aux Noirs, mais il a voulu que tous aient les mêmes droits. Car à la suite de cela, d'autres minorités ont acquis aussi les mêmes droits. Qu'il n'y ait plus des gens à l'avant et à l'arrière des bus, qu'il n'y ait plus des gens debout et assis pour la raison de leur couleur, de leur peau ou de leur catégorie sociale. Mais cela, il l'a puisé dans l'Évangile. Et jusqu'au bout, si vous lisez ses écrits, si vous écoutez ses prédications, même lorsqu'il était dans sa dernière manifestation, il a encore prêché l'Évangile. Il a appelé à la référence qui était pour lui Jésus-Christ. Nous pourrions, et nous allons le faire quelques instants, regarder ce qu'il y a eu entre Martin Luther et de l'autre côté, Martin Luther King. Je voudrais citer avec vous quelques personnes, un réformateur qui a peut-être été cité tout à l'heure, je ne sais pas, Wesley, John Wesley. Est-ce que vous savez que John Wesley a fait beaucoup de cantiques avec Charles ? Mais il a aussi fait quelque chose d'autre qu'on oublie. Mais Laurence le connaît certainement. Il a écrit des traités de médecine populaire. Pas beaucoup, mais suffisamment comme des petites feuilles pour que les gens qui n'ont pas accès à la médecine générale puissent se soigner de manière de proximité. Intéressant, non ? Un homme qui devait passer beaucoup de temps avec la parole de Dieu n'a pas oublié que les gens qui sont en face de lui avaient la nécessité d'être connectés aussi par leur quotidien et leur santé. Je veux penser aussi au comte Zinzendorf. C'est un homme qui est riche, qui a des biens. Quand il va découvrir l'Évangile, il va avoir envie que cet Évangile aille partout. Il est un peu responsable des écoles maternelles. Il a mis en place tout un système d'écoles afin que l'école soit pour tous et qu'ils puissent savoir lire et écrire et faire un choix plus tard. Oh, il a copié quelque part, c'est le modèle juif. Mais il a osé prendre ses biens, sacrifier quelque chose pour que d'autres puissent aussi avoir une certaine culture et pouvoir faire un choix en connaissance de cause. C'est aussi à cause de lui que nous avons les calendriers à effeuiller. Il est un des ancêtres, les frères Moraves sont un des ancêtres de ces petits calendriers que vous avez peut-être encore aujourd'hui, que vous distribuez. Parce que simplement quelqu'un a pensé qu'il était peut-être difficile d'avoir toute la Bible ou de tout retenir, mais avec juste un texte par jour, cela pouvait impacter une population. Apprendre à lire et à écrire avec la Bible, apprendre à connaître Jésus au travers de la lecture. Nous pourrions citer encore William Booth. William Booth qui ne peut pas rester insensible au monde dans lequel il est, mais qui va se démener, lui, sa fille, sa femme, sa famille, puis de manière plus large, pour une cause soupe, savon, sans oublier salut. Toujours allier l'incarnation que nous sommes du message de Jésus-Christ qui nous rejoint jusque dans notre réalité, jusqu'à son retour, et je crois vivement à son retour. Mais en attendant, prendre considération des gens qui sont autour de nous, reprendre d'autres exemples que vous connaissez peut-être et dont on fait fi de leur foi, mais qui pourtant ont laissé quelques écrits à propos de cela, M. Dunant, qui a fondé la Croix-Rouge. Il était une époque où, lorsque les gens mouraient sur le terrain en temps de guerre, qu'est-ce qui se passait ? On faisait une trêve, on allait récupérer ses blessés et on recommençait après. Mais on pouvait laisser mourir quelqu'un parce qu'il n'était pas des nôtres. Lui ose dire, dans une Suisse pas si neutre que ça, il faudrait s'occuper de tous. Et il prend ça sur lui, de s'occuper aussi de ses ennemis. Nous voyons là plein d'échos à l'Écriture. Incarner le message de façon à être plus audible. Je l'ai dit, visible, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Être visible dans la société qui est la nôtre. Schœlcher, celui qui a travaillé aussi contre l'esclavagisme, nous pourrions aussi voir Cameron Townsend, qui a travaillé et qui a fondé la Wycliffe, enfin plutôt à la suite de lui, c'est la Wycliffe qui a été créée, la traduction de la Bible. Vous savez qu'aujourd'hui, la Wycliffe, qui s'appelle aussi la CIL, c'est ça, voilà, Société Internationale. Donc la CIL est appelée par de nombreux gouvernements dans le monde, une société chrétienne, pour pouvoir mettre par écrit leur langue. Et je me pose la question, depuis Martin Luther King, depuis George Muller aussi, qui a mis en place des orphelinats, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous incarnons ? Sommes-nous simplement des gens du livre et uniquement du livre ? Ou est-ce que Jésus vit en nous et nous donne un nouveau regard sur le monde dans lequel nous sommes afin de gagner à être entendu au milieu d'une foultitude d'expressions qui sont autour de nous. J'aimerais lire avec vous également un autre texte qui se trouve dans Actes, au chapitre 2. C'est le début de l'Église. J'aime bien dire l'Église primitive, parce que les gens comprennent primaire. Elle n'est pas si primitive que ça au sens basique. On y trouve à l'intérieur tous les éléments qui pourraient être des éléments vitaux pour nos églises aujourd'hui. Après le succès de Pierre, vous vous en souvenez, enfin vous n'étiez pas là moi non plus, mais quand Pierre prend la parole et qu'il y a tant de personnes qui demandent le baptême, je disais encore il y a quelque temps que 3000 baptisés à raison de 45 secondes par baptisé, ça nous fait quelques jours. Hein. Enfin, revenons à d'autres considérations. Après le succès de la parole, on pourrait se dire, il suffit de prêcher et les gens tombent. Eh bien non. L'Église ne fait pas que des prédicateurs. Et nous lisons à partir du verset 42 des versets instructifs sur la vie de l'Église primitive. Ils étaient assidus sur Internet à regarder les pubs des grands prédicateurs. Moi, j'ai une version moderne, vous n'avez pas ça ? Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Assidus. Le mot assidu veut dire régulier. Il contient même le sens d'un certain effort. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'effectivement, la parole est centrale, je l'ai dit ce matin, mais cela demande un effort, un sacrifice. C'est le soir de votre feuilleton. Pour vous faire sourire, parce qu'il faut sourire à l'heure qu'il est, hein, parce que sinon... C'est toujours intéressant d'en discuter avec les gens, dire oui, mais ah oui, non, mais le jour de l'étude biblique, mais tu sais, moi je travaille. Ah, excuse-moi, les études bibliques, c'est pour que les retraités et les pasteurs qui ne travaillent pas. Hein. Mais non, c'est pour tout le monde. Pour ceux qui travaillent et les autres. Il faut bien qu'on trouve un moment pour être ensemble. Et il faut que les uns et les autres sacrifient quelque chose. Ici, ils sacrifiaient quelque chose, parce que je vous signale qu'à l'époque, on travaillait du lever du soleil jusqu'à son coucher. Enfin, ils ne chantaient pas le soir. Hein. Moi-même, dans ma famille, en Israël, quand j'étais petit, c'était marrant parce qu'ils me disaient « on se lève tôt demain ». Moi, je dis « c'est quoi tôt ?» Quand le soleil se lève. Eh oui, mais en France, le soleil se lève pas à la même heure. Voilà. Donc, il y a eu des moments où je me suis levé tôt, hein, je peux vous dire, hein, pour aller aider, pour mettre les pastèques et tout. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'il ne faut pas se croire qu'à l'époque, ils étaient tous en vacances. Hein. Quand on dit qu'ils étaient assidus, c'était quelque chose en plus. Ce n'était pas une option. La parole de Dieu, en étant non pas une option, mais un désir ardent, cela veut dire deux choses. Un, que les apôtres n'étaient pas ennuyeux. Deux, qu'ils cherchaient la parole. Ce n'est pas toujours la faute des gens qui viennent à l'église. Il y a des fois, il y a des moments, il y a des épisodes de notre vie où on peut être très ennuyeux dans une étude biblique. J'ai eu la chance, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir eu mon héritage familial qui m'a attaché à la parole de Dieu, mais aussi des moniteurs d'école les dimanches. Alfred Kuhn, c'est vrai que... Mais bon, je l'ai eu après comme prof, hein, alors c'est moins rigolo. Mais... J'ai eu des enseignants qui ont pris un temps particulier pour répondre à nos questions. Dans l'assemblée où je suis à la Louvière, certains savent qu'avant l'étude biblique, je pose toujours la question « est-ce qu'il y a des questions ?» Même si ça n'a rien à voir avec l'étude biblique. Dans nos églises, nous apportons des réponses à des questions que les gens n'ont pas. Mais toute leur vie, ils peuvent rester avec des questions. C'est vrai ou pas ? Ce n'est pas toujours vrai, on répond aussi à des questions que les gens ont. Mais la plupart du temps, nous restons avec des questions. Dans l'étude biblique où j'étais, quand j'étais en France, un vieux monsieur, plus de 80 ans, m'a dit « Joël, je voudrais te poser une question que j'ai depuis que je suis tout petit. » Un monsieur engagé pour le Seigneur depuis sa tendre enfance, il m'a posé cette question. Ça pourrait paraître bête, mais elle le travaillait depuis des années. Vous avez peut-être des questions que vous vous posez, mais tant que vous n'avez pas des réponses à ces questions-là, il se peut très bien que vos oreilles soient fermées à d'autres questions. Prendre du temps pour répondre à des questions. à écouter. Et ce qui est intéressant depuis que je suis pasteur, c'est que les gens me disent « Ah, t'as des réponses à toutes les questions ». Je dis « Non, en fait, on tourne autour d'une petite centaine de questions que tout le monde a. Donc maintenant, au bout de presque 30 ans de ministère, ça roule. Mais j'ai gagné quelque chose. Je regarde les gens de mon église qui sont ici. J'ai gagné le droit d'être écouté aussi à l'église. Parce que la Bible n'est pas toujours hyper passionnante à transmettre. Parce que difficile. Parce qu'avec des points d'interrogation, des zones d'ombre. Mais parce qu'on aura déjà écouté. C'est ce qu'on a ici. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et nous voyons à différentes reprises qu'il y a des questions qui se posent. On cherche les réponses en son temps, afin de rejoindre les gens dans leur réalité. La deuxième chose, c'est la communion fraternelle et le partage du pain et la prière. Assidus dans ces différents domaines. Peut-être certains ont le mot persévérance. La communion fraternelle. Est-ce qu'il peut y avoir une communion fraternelle si on ne se pardonne pas? Si on s'évite à la sortie du culte? Si on évite certaines questions parce qu'on sait que ce sont des questions qui nous divisent? On a le droit d'avoir des avis différents. Mais on n'a pas le droit de rompre la communion fraternelle. Car nous sommes appelés à être enfants de Dieu, non pas par les liens de la chair, parce que j'ai choisi. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je change d'église parce que ce ne sont plus mes frères. Et désolé, on a le même père, hein. Donc, quelle que soit l'église où je vais, je vais retrouver le même problème. Hein. Prendre du temps pour se pardonner. Prendre du temps pour se connaître. J'ai du mal à manger à une table, et ça m'arrive de manger avec des notables. J'ai du mal à manger à une table si je ne connais pas les gens qui sont avec moi à la table. Obligé de se présenter. Des fois, c'est amusant. Hein. Bonjour, responsable du Parti communiste. J'ai tendance à dire, il y en a encore. Mais je ne peux pas, il est là, donc il existe. Hein. J'ai même dans ma vie été confronté avec des gens qui sont de l'extrême droite. Ce n'est pas toujours facile, en étant d'origine juive, d'aller les saluer. Mais qu'est-ce que j'ai pu être interpellé par ces personnes-là? Je l'ai dit ce matin... Nous avons perdu un enfant avec mon épouse, et quand nous avons perdu notre enfant, c'est un maire d'extrême droite qui nous a écrit un mot, un monsieur catholique intégriste qui m'a dit « Votre foi vous sert, la mienne ne m'a servi à rien quand j'ai perdu un fils. » Rejoindre les gens dans leur réalité, même quand ils ne sont pas du même bord que nous. Nous ne sommes pas là pour nous créer des ennemis, nous sommes là pour que Dieu fasse de chacun d'entre nous une famille. Unis, pour une fois. Cela demande des efforts, cela peut demander du temps, mais jamais la fuite n'est une solution. Le partage du pain, je l'ai dit, communion fraternelle sans connaître l'autre, sans pardon, sans aimer l'autre, cela m'est impossible. Et prendre du temps aux prières, au pluriel. Prendre du temps... non pas pour faire étalage de tous les sujets, mais pour se sentir concerné par les sujets. Je ne demande pas à mes paroissiens de connaître tous les sujets de prière. Nous pourrions, et nous avons de nombreux malades, n'est-ce pas, dans notre assemblée, nous pourrions passer des journées complètes à prier pour les malades. Nous pourrions prier pour toutes les familles dont les enfants ne sont pas encore au Seigneur. Et nous avons de nombreuses familles dans notre Église dont les enfants ne sont pas encore au Seigneur. Mais qu'on prenne juste quelques sujets et qu'on les amène au trône de notre Seigneur, que ce soit avec notre cœur, qu'on puisse non seulement les porter devant Dieu, mais lorsque je sais que dans mon Église, de nombreuses personnes souffrent, non seulement dans la chair, mais aussi parce que leurs enfants ne sont pas au Seigneur, je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas rester insensible. Aujourd'hui, je peux prier avec mes enfants, mais de savoir que certains ne peuvent pas avec les leurs, ça me fait mal. Je suis obligé de les rejoindre dans mon incarnation. Des fois de comprendre leur réaction, leur violence, leur tristesse, leur état. Ne pas l'excuser, hein, mais le comprendre, pour pouvoir les aider à sortir et retrouver la communion pleine fraternelle avec l'Assemblée, avec les uns, avec les autres. Et un jour, je le souhaite de tout mon cœur, que tous ces enfants qui manquent dans notre Église soient au Seigneur un jour. Et que nous puissions le louer ensemble. La suite est intéressante. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Oh, ça, c'est encore pour toi Samuel, ça, tu vois. Ou pour Eric, oui, c'est un truc là, on vend tout, on peut tout payer. Voilà. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande à chacun ? Il faut comprendre l'esprit de ce texte. Peut-être que les premiers chrétiens attendaient le retour de Jésus, donc ils pensaient vraiment qu'il allait revenir dans les instants. Ils n'avaient pas besoin de leurs affaires, ils vendaient tout. On voit que petit à petit, en s'éloignant concrètement du retour de Jésus immédiat, ils changent un peu d'attitude. Mais par contre, toujours, et on le voit plus tard, c'est parce que justement les uns et les autres ont un esprit de parti que les apôtres sont obligés de faire des ministères. Certains disent que ce n'est pas tout à fait l'ancêtre des diaconats, je suis d'accord, mais une forme de diaconat qui se met en place afin qu'il n'y ait personne qui manque de quoi que ce soit. Comment pourrait-on être ensemble dans un endroit alors qu'il manque à l'un et l'autre en abondance et disent « Que le Seigneur te bénisse hein !» Moi, il l'a déjà fait. Hein. Un évangéliste en France dit que nous devrions être des chrétiens par débordement. Dans l'Épître aux Éphésiens, on nous dit, dans les débuts de l'Épître aux Éphésiens, que nous sommes remplis de toute bénédiction et en abondance. Donc on peut déborder, on peut donner, on en a assez. Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas plus cela dans l'Assemblée ? On critique souvent les grandes églises parce qu'ils ne se connaissent pas là-bas, mais dans les nôtres plus petites, je ne suis pas sûr que la communion fraternelle et l'intérêt les uns pour les autres soient tout aussi plus grands. Non, le souci de l'autre. Dans l'Écriture, on nous parle aussi de ces hypocrites qui mangent bien et qui d'autres ne mangent pas au moment de la scène. Corinthiens. Est-ce que nous sommes meilleurs qu'eux ? Non, l'Église peut grandir. Pour quelle raison ? Parce que justement, ils ont du souci les uns pour les autres. S'il a un manque, il donne. S'il n'a pas, il ne peut pas donner. Et il se passe de grands miracles au milieu d'eux. Alors tout de suite, on va poser une quelle sorte de miracle ? C'est intéressant, le texte n'en parle pas. Alors je ne vais pas en parler. Mais je crois que le plus grand des miracles qu'il peut y avoir dans nos assemblées, c'est peut-être justement des réconciliations. Nous avons eu un rassemblement il y a 3 semaines. On a fait le culte en commun, c'est ça ? On a fait un culte en commun à la Louvière. Tout le monde nous a annoncé qu'on ne serait pas plus que 100 ou 200, peut-être 300. On a été 1000. On a été surpris. Enfin, pas tout à fait. On nous a dit 300, on avait réservé 800 chaises, ça va. Il y avait de quoi s'allonger, hein. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, petit 1, quand on a mis nos affiches dans les magasins, 2 magasins sur 3 connaissaient les évangéliques. Sur les 2 magasins qui connaissent les évangéliques, 100% nous connaissent pour nos divisions. J'avais un oncle qui était là-bas, mais ça ne se passait pas bien. Alors, il est parti ailleurs, mais il est reparti là. Vous voulez un autre exemple ? Dans notre famille, on a 3 frères, ils sont tous pasteurs, mais dans des églises différentes. Ben, c'est bien, ça bombe, hein, voilà. Alors moi, j'étais avec ma petite affiche, moi qui ne connais rien, je fais, je peux mettre mon affiche ou pas, là ? Je veux partir de cet endroit-là. Et je blague à moitié, hein. Mais en contrepartie, quel plaisir, le dimanche, de voir autant de monde et de voir des personnes qui revenaient, des personnes qui se sont recroisées, des gens qui se sont ressouris, parce que certaines personnes ont mis des choses en commun, parce que ça a coûté de faire 2 chapiteaux pour 1000 personnes. Les sacrifices que nous devons faire aujourd'hui d'une manière tout à fait incarnée, que ce soit acheter des Bibles, acheter des ouvrages qui sont ici, ne pensez pas d'abord qu'ils sont pour vous, mais que vous pouvez les offrir. La Bible vous a été offerte, alors offrez-la. Mais à qui ? Soyez surpris. Parlez-en à votre boucher, votre boulanger. Vous avez pensé que lui avait envie de l'Évangile ? Quand est-ce que la dernière fois vous lui avez parlé de l'Évangile ? Nous, on a un boucher qui est intéressant, avec mon épouse. Je suis allé lui apporter un calendrier. Alors, pour vous donner le cadre, petite boucherie de quartier. Il arrive, il fait « Ah, j'en veux 2 !» C'est quoi ? Ah, c'est Dieu. Ah ouais. Jean-Jacques, viens voir. Alors le gars, il arrive. Voilà, tiens, monsieur le pasteur, il te donne un calendrier. Au lieu de regarder tes machins pornographiques, tu regarderas le calendrier. Alors là, je suis là avec ma pile de calendrier. Quelques jours plus tard, je viens faire mes courses encore une fois chez le boucher, du monde partout, et comme il y avait du monde et qu'il devait attendre, le boucher fait « Comme vous avez de la temps d'attente, si vous avez des questions, le pasteur est au fond. » C'est pas vrai, hein, mon fils, hein ? Je regarde mon épouse parce qu'elle est là, je la salue, mon épouse, parce qu'elle n'était pas là ce matin. J'aimerais vraiment vous dire que incarner le message, c'est se laisser surprendre par Dieu. Aujourd'hui, Jean-Jacques est en train, va certainement reprendre la boîte, mais je peux toujours venir chez lui et rigoler, c'est moi qui leur ai fait la pub, j'ai fait le logo et tout, enfin, un tas de trucs pour eux. Mais savoir être proche des gens, l'évangile nous rapproche des autres, car c'est le même message qui peut toucher le boucher comme l'ingénieur ou le président de la République. Le même message parce que nous pourrons les rejoindre dans notre quotidien. Nous aurons envie. L'évangile, c'est Christ qui vient jusqu'à nous. La foi, c'est nous, habités par le Christ, qui allons vers les autres. Réduire les distances, regarder ce dont les gens ont besoin, afin de pouvoir leur proposer un évangile incarné. Ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Des agapes, des temps en commun. Qui d'entre nous ne peut pas témoigner que lorsqu'il y a des agapes, on s'inquiète avant qu'il manque quoi que ce soit. C'est vrai ? Et on repart tous avec notre Tupperware. Ah, pas de marque, notre boîte en plastique. C'est pas vrai ? La multiplication des taboulés, là on est fort. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète chaque fois ? Au groupe de jeunes, la dernière fois, nous avions de la nourriture en trop. Et j'ai aimé leur initiative. Je ne sais pas s'ils sont encore là, ceux du mon groupe de jeunes, mais ils sont allés apporter notre surplus de nourriture aux gens qui étaient dans la rue. Encore un tout petit témoignage et je dois terminer. Nous avons décidé il y a quelques années, je ne l'ai pas encore fait en Belgique, mais on va essayer peut-être cette année ou l'année prochaine, tous les 24 au soir, d'aller dans les rues pour apporter un morceau de gâteau avec un calendrier. Dans quel ordre ? D'abord le morceau de gâteau, après le calendrier. Et d'aller partout où les gens sont là le 24 au soir pour leur apporter la bonne nouvelle. Cela fait maintenant, 25 ans que je le fais. Nous n'avons jamais, jamais été jetés dehors, ni dans les restaurants musulmans, ni dans aucun restaurant. Nous avons toujours été accueillis. Pour quelle raison ? D'abord, c'est Noël. Et ce message, nous devons le rappeler dans le monde dans lequel nous sommes. Nous devons incarner ce message de Noël. Ce n'est pas les paquets cadeaux, Noël. C'est bien Christ que nous voulons fêter ce jour-là. Même si c'était certainement vers Pâques, peu importe. Nous pouvons le fêter ce jour-là. Et pourquoi ne pas apporter ce cadeau que nous avons reçu ce jour-là, il y a longtemps, le 24 ? Nous avons été reçus par toutes sortes de personnes, parce que vous savez que les gens qui sont dans la rue le 24, les gens qui sont dans les restaurants, ce sont ceux qui n'ont pas de famille, car le 24 est une fête de famille. Nous avons rencontré de nombreuses personnes seules. Je me rappelle même avoir vu quelqu'un qui m'a dit « mais je ne prends pas, je ne prends pas ». C'était des Vietnamiens. Il dit « on ne prend pas, on ne prend pas, on connaît ». Je dis « pourquoi on connaît ?»« Oh, mon père est pasteur ». Je dis « où ?» Je lui dis, et je trouvais que je connaissais son père. Là, il a changé la tête. Il dit non, on en a eu marre de l'évangile. On nous l'a bombardé. On a dit tu dois lire, tu dois lire, tu dois lire. Tu dois aller à l'église, à l'église, à l'église. Mais le reste. Et je lui dis mais tu vois, aujourd'hui c'est nous qui venons vers toi. Et on a eu une grande discussion, il est parti avec ça. On a vu un jeune tatoué de partout. Il dit je prends pas le bouquin, je prends pas le bouquin. C'est quoi comme bouquin ? Ah, ça c'est toujours bien, des gens disent je prends pas, c'est quoi ? Mais c'est pas vrai ce que je dis ? Voilà. Je prends pas, mais c'est quoi ? C'est la Bible. Oh, c'est super bien. Il attrape un autre gars, aussi tatoué, et prend ça. Tiens, regarde, regarde, ça change la vie. J'ai même pas besoin de faire la pub. Le gars était en prison, il a eu les visiteurs de prison, et il s'est converti en prison. Il dit, ouais, ça change la vie, tiens, prends. Prends un deuxième pour ta mère. Et je pourrais multiplier comme ça une jeune femme qui arrivait toute débraillée dans la rue, et on lui a offert un évangile. Et elle, quelques jours plus tard, en repassant au marché, elle s'était convertie. Elle n'allait pas dans l'église où j'étais pasteur, mais une autre église, mais peu importe. Et elle me dit, ah, Elle était avec tous ses copains qui se prennent avec des chiens. Vous savez, les SDF sont souvent avec des chiens. Et elle dit, je peux en avoir combien? C'est pour distribuer. Bah, ça change la vie. Et après, elle travaillait comme au rayon poisson d'un grand magasin. Et quand elle me dit, hey, pasteur, faut que tu dises à tout le monde que Jésus est le Seigneur. Et elle vendait du poisson. Je dis, mais des histoires comme ça, j'en ai plein que j'ai pu vivre. Ça n'a pas toujours été une réussite, mon témoignage. Mais j'ai vu voir agir, puisque comment termine le texte ? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Ce n'est pas nous qui convertissons, mais il faut que nous soyons visibles et incarnés dans le témoignage. Jésus, plus tard, dira chaque fois que vous avez fait ceci ou cela en mon nom, c'est à moi que vous l'avez fait. Le vêtement, la visite, la nourriture, des choses bien concrètes. Je conclus. Vous vous rappelez le cousin du roi ? Le cousin du roi, pensons que ça peut être notre Dieu, Jésus, qui est venu nous rejoindre dans la prison. Il nous a apporté l'écriture, la connaissance, mais pour lire ça, il faut savoir lire et écrire. Il faut aussi peut-être avoir le ventre plein avant qu'on nous permette, ou que mes oreilles me permettent d'entendre l'évangile. Ça peut être aussi l'éducation, un toit, un petit moment de chaleur. Mais à un moment, Jésus est retourné auprès de son Père, et il dit, je reviens, mais en attendant, fais ton job, moi je fais le mien. Incarne le témoignage, et moi je rajouterai tous ceux que j'ai choisis et qui rentreront dans le royaume des cieux. Ma question, et nous, Église belge, qu'est-ce que nous allons faire en sortant d'ici ? Au prochain conseil d'Église, prochaine réunion d'Église, qu'est-ce que nous allons faire pour porter notre regard sur les gens qui sont autour de nous, dans notre quartier. L'échevin de la Louvière, en discutant avec lui, m'a dit « Et si vous nettoyez le quartier ? On aurait besoin qu'on nettoie le quartier. On vous donne tous les outils. » Je regarde notre trésorier, on n'aura pas besoin de payer. Mais je lui ai dit « Ok, on va certainement faire ça, il faut qu'on trouve une date. » Être disponible pour gagner le droit d'être écouté. Être vrai aussi. L'échevin et le bourgmestre m'ont posé la question, vous connaissez l'église qui est dans la rue machin, ils sont un peu bizarres, on a des réclamations à propos d'eux. Qu'est-ce qu'on doit dire ? On doit dire, tous les chrétiens évangéliques sont très très bien. Il faut qu'on gagne le droit d'être écouté. Et aussi dire aussi que chez nous, dénoncer, quand il y a des gens chez nous qui font des choses qui ne sont pas bien, qui désincarne le message de l'Évangile, qui trompe les gens avec une fausse doctrine. Il ne faut pas simplement passer par-dessus, il faut aussi prendre position. Car cette position-là, elle est spirituelle. Et elle ancrera des choses sur terre et dans les cieux. Amen.